monde il est beau, tout le monde il est gentil.
C'est un fait désormais avéré. Depuis la mondialisation heureuse, le modèle de la bourgeoisie occidentale s'exporte avec succès sur l'ensemble de la planète. Cette extension permet à une partie des populations du Sud, concentrées dans les villes à partir des exodes ruraux souvent forcés, de se hisser dans les catégories nanties grâce à des capacités innées ou imitées d'opportunisme et de soumission. Ce modèle comportemental, fortement développé en Europe à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale et promu principalement par un plan Marshall conçu pour l'American Way of Life, tend à devenir un modèle sur le plan planétaire, cette fois-ci. De fait, ce modèle qui, chez nous, et par un libéralisme économique instituant la propriété privée en tant qu'unique objectif de vie, a généré des inégalités sociales gommées par un relatif confort matériel. Ce processus se reproduit désormais à l'échelle globale. L'incitation à ne plus se salir les mains dans les besognes qualifiées de rustres, le monde rural, mais de préférer se salir l'âme et l'esprit dans des tâches réputées progressistes, la bureaucratie privée et publique du tertiaire, en faisant de l'argent la seule possibilité d'autonomie, nous amène désormais, pour une partie grandissante de ces privilégiés, sur le chemin pavé de bonnes intentions, mais jonché de comportements malhonnêtes en direction d'une émancipation globale qui ressemble de plus en plus à un vaste champ de bataille. Et dans ce processus, les cités devenues mégalopoles autant que mégapoles développent donc des processus politiques mégalomaniaques. Observons cela, on peut être saisi par certains points. Dans l'un de ceux que j'ai observés m'est apparu un fait que j'ai trouvé interpellant. Il concerne le fameux paradigme qui institue l'humain en tant que loup pour l'humain. Cherchant à le replacer dans le rapport ville-campagne, certaines ressemblances me sont apparues, au rang desquelles je tente d'en décrire une ou deux. Tout d'abord, et à mon sens, l'humain n'est pas qu'un loup pour l'humain. Il est aussi un agneau pour le loup. Puisqu'aussi bien c'est ce que se propose de manger le loup. À cette lumière, l'humain apparaît plutôt comme un choix perpétuel, une sorte de rapport entre la conscience et la vigilance. À devoir se choisir entre prédateur ou à se résoudre à subir la prédation. Mais il peut aussi choisir l'équilibre en décidant de fixer des limites à son côté prédateur, limitant ainsi les risques d'augmenter les victimes de la prédation. Si je reporte ce constat dans une réflexion plus vaste concernant les populations et leur organisation sociale, je constate certains rapports de similitude. Postulant que le peuple est un loup pour le peuple, les réflexions précédentes s'y adaptent. À savoir que les peuples peuvent limiter leur côté prédateur pour éviter les risques d'augmentation des populations victimes. Quittant la rigueur de ce raisonnement pour m'interroger sur ce que représentent les villes pour moi plus généralement, m'apparaissent certains éléments de réflexion dont celui-ci. Les villes ne sont-elles pas des concentrations de la démesure sur toutes ses formes et, partant, ne constitueraient-elles pas la nouvelle incarnation de ce paradigme de l'humain tenu pour prédateur de l'humain? En d'autres termes, le modèle comportemental qu'elles enseignent et imposent n'est-il pas l'incarnation même de l'impossibilité de choisir l'équilibre dans une volonté de vivre autrement? C'est, à mon sens, une question qu'aborde l'article dont nous vous donnons lecture aujourd'hui. Intitulé « Quand les grandes villes font sécession », il est écrit par Benoît Bréville et a été publié dans Le Monde diplomatique de mars 2020. Il est lu par Patrick Rion.
Dans la plupart des pays occidentaux, les habitants et les gestionnaires des métropoles sont mécontents. Apôtres du progressisme, de l'ouverture et de l'innovation, ils n'apprécient pas la trajectoire prise par le reste du pays, par les petites villes et les campagnes, qui se laissent gagner par l'extrême droite et le populisme. Aussi ont-ils commencé à se liguer pour organiser la riposte. Pour espérer remporter la mairie d'une grande ville française en 2020, tout candidat sérieux doit se plier à certaines règles. Par exemple, s'engager à planter des arbres. À Paris, Madame Anne Hidalgo propose d'en semer 170 000 en 6 ans, quand son concurrent Cédric Villani, animateur en juillet 2019 d'une nuit des arbres à la Fondation Cartier, défend un vaste projet de promenade plantée. À Marseille, la candidate Les Républicains LR, Martine Vassal, veut en ajouter autant qu'il n'est d'enfants, environ 70 000 si les Marseillais conservent leur niveau de fécondité de la mandature précédente, soit trois fois plus que sa concurrente socialiste, la sénatrice Samia Ghali. À Lille, les candidats rivalisent de forêts urbaines et de places végétalisées. Mais l'amour du jardinage ne suffit pas. Il faut aussi promettre de construire des bâtiments verts, d'encourager l'usage du vélo et des véhicules partagés, de convertir les cantines scolaires à l'alimentation biologique, de soutenir la culture, de favoriser la transition énergétique, de développer l'attractivité de la ville. Il faut enfin truffer son programme de termes tels qu'innovation, transparence, démocratie participative et caser l'adjectif durable le plus souvent possible. Développement durable, ville durable, territoire durable, tourisme durable, bâtiment durable, etc. Les mêmes mots, les mêmes formules, les mêmes idées reviennent chez tous les candidats, dont les programmes semblent piocher dans un catalogue de bonnes pratiques, reproductibles de ville en ville et même de pays en pays, puisque l'offre municipale n'est guère différente à Seattle, Montréal ou Berlin. Comme si la politique locale se réduisait à une série de réponses pragmatiques, de solutions de bon sens à des problèmes concrets. Pendant que les nations parlent, les villes agissent, se plaisait à répéter M. Michael Bloomberg du temps où il était maire de New York, entre 2002 et 2013, et où il présidait la Cities Climate Leadership Group, C40, un puissant forum rassemblant les 94 plus grandes villes du monde autour de la lutte contre le changement climatique. Depuis, la maxime a fait école. Pour de nombreux décideurs urbains, les États, empêtrés dans des conflits idéologiques et partisans, sont incapables d'agir efficacement. Et il revient donc aux villes de s'unir pour pallier ces carences. Une idée qui, présentée comme une évidence dans la littérature des professionnels de l'urbanisme, constitue le socle de la diplomatie des villes. Cette doctrine plonge ses racines dans les jumelages franco-allemands de réconciliation après la Seconde Guerre mondiale, mais inspire désormais une myriade de coalitions, de forums, de réseaux regroupant des villes des quatre coins du globe. Leur nombre et leur influence n'ont cessé de croître depuis 30 ans. On en comptait 55 en 1985, ils sont aujourd'hui plus de 200. Le C40, mais aussi Eurocities, la Convention mondiale des maires pour le climat et l'énergie, le Conseil national international pour les initiatives écologiques locales, les cités et gouvernements locaux unis, le réseau des villes créatives de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, Mayors for Peace, le groupe Ville Santé de l'Organisation mondiale de la santé, etc. Concernant les inégalités, l'immigration, la santé, la sécurité, la gouvernance, les droits humains et nombre d'autres sujets cruciaux, les villes contournent de plus en plus leurs gouvernements nationaux et s'organisent entre elles pour trouver des solutions, se réjouit Ivo Dalder, politiste et ancien conseiller de M. Barack Obama. Devenir une trend-setting city. Tous réglés sur la même longueur d'onde, ces regroupements bénéficient de soutien de la Banque mondiale, de l'Organisation des Nations Unies et de pléthore de multinationales, IKEA, Microsoft, Google, Velux ou Dell Technologies, figuraient parmi les sponsors du dernier congrès mondial des maires du C40. Il constitue un puissant relais de l'évangile métropolitain qui unit pouvoirs locaux et entreprises dans le culte de l'innovation. D'ailleurs, le secteur privé aime tant la diplomatie des villes qu'il lance lui-même des regroupements, comme le City Protocol du géant informatique Cisco ou le 100 Resilient Cities Network de la Fondation Rockefeller. En plus de favoriser le recyclage du capitalisme vert, les réseaux urbains internationaux jouent un rôle déterminant dans la définition des bonnes pratiques qui circulent ensuite de ville en ville. Dans le cadre de leurs activités diplomatiques, les équipes municipales écument les congrès, les salons, les expositions et multiplient les voyages d'études. Selon une mise en scène de Showroom, elles présentent leurs réalisations, leurs expériences et écoutent leurs homologues faire de même. Chacune peut ensuite rentrer chez elle avec des solutions clés en main. Le recours aux pratiques des autres permet aux acteurs de combiner deux objectifs contradictoires. Produire quelque chose de nouveau, tout en apportant des garanties que leurs pratiques utilisées ont fait leurs preuves ailleurs, analysent Alain Bourdin et Joël Hitt. Le C40 s'enorgueillit d'avoir impulsé, entre 2012 et 2018, plus de 14 000 actions concrètes pour lutter contre le changement climatique. Sous son égide, Changwon, Corée du Sud, Tokyo et New York ont partagé leurs techniques novatrices de revêtement des toits pour réfléchir les rayons du soleil et refroidir les immeubles. Barcelone, Singapour, Auckland, Nouvelle-Zélande et Varsovie ont échangé leur savoir sur l'électrification des bus. Des villes en pointe dans un domaine, Paris pour le métro, Copenhague pour le vélo, ont apporté leur soutien technique à d'autres moins expérimentés. Pour récompenser les meilleures idées, le C40 organise chaque année les C40 Bloomberg Philanthropies Awards. La cérémonie 2019 a distingué les corridors verts de Medellín, Colombie, les panneaux solaires de Séoul, le programme de soutien aux énergies vertes de San Francisco, les bus électriques de Canton. Ces projets méritent d'être étudiés par les maires et les dirigeants des villes du monde entier, a déclaré la présidente du C40, Madame Hidalgo, lors de la remise des prix. Pour les villes qui souhaitent renforcer leur stature internationale, ce type de récompense fournit une arme de choix. L'offre ne manque pas. Chaque réseau, chaque revue, chaque niveau de gouvernement désigne ses bons élèves. La Commission européenne remet tous les ans le titre de capitale européenne, verte, de la culture, de la jeunesse ou de l'innovation, et distribue les Access City Awards pour récompenser l'attention portée aux personnes âgées ou handicapées. En France, le ministère de l'économie décerne le label French Tech, destiné à faire éclore des tech champions susceptibles d'attirer les investisseurs étrangers. Une ville qui reçoit un prix est certaine de se voir célébrée dans la presse spécialisée. Parfois, elle peut même acquérir le statut de modèle. Son nom restera alors associé à une pratique vertueuse, imitée ou plus souvent pastichée partout dans le monde. Elle deviendra une « trend-setting city », une ville qui définit la tendance. Porto Alegre et son budget participatif, Singapour et son système de péage urbain, Bilbao et sa stratégie de régénération économique par la culture, le fameux effet Guggenheim, Hambourg et sa gestion des risques d'inondation, Seattle et sa pépinière de start-up, Londres et sa gestion des méga-événements sportifs, Vancouver et son modèle de développement durable. Toute métropole rêve de devenir un modèle, car, comme le souligne Yves Villard, l'un des rares spécialistes français de la diplomatie urbaine, la guerre économique entre grandes villes s'accompagne d'une compétition qui passe par la fabrique d'images de marques séduisantes de branding. Participer à des forums tels que le C40 est un excellent moyen de ripolliner son image et d'accroître la notoriété de sa marque, condition sine qua non pour tirer son épingle du jeu de la concurrence urbaine et attirer des investisseurs, des entreprises, des travailleurs diplômés, des étudiants ou accueillir des grands événements générateurs de retombées économiques. Il y a 50, peut-être 100 villes qui sont le moteur intellectuel et culturel et économique du monde, a résumé M. Rahm Emanuel, maire de Chicago de 2011 à 2019. Nous travaillons tous sur les mêmes choses, car nous avons tous les mêmes chances. Nous devons rendre nos villes compétitives. Les emplois et les entreprises que nous voulons attirer ne sont pas seulement globaux, ils sont aussi mobiles. Pour épater les investisseurs, les équipes municipales recourent à des cabinets de conseil urbain en secteur florissant. Avec leur langage standardisé, ces derniers aident à remplir les dossiers de candidature aux divers prix et labels, ainsi que les épais formulaires de demande de subvention auprès des fondations philanthropiques qui financent des projets urbains innovants. Ils imaginent également des logos accrocheurs et des slogans choc, de préférence en anglais, Only Lyon, So Toulouse, My Rhodes, destinés à figurer sur tous les supports de communication ou à être affichés lors de grands événements. La compétition urbaine engage les villes dans une logique de benchmarking, une course sans ligne d'arrivée où chacune cherche à se montrer plus innovante, plus moderne, plus branchée, quel que soit le niveau national, continental ou mondial auquel elle concourt. C'est ainsi qu'Aix-en-Provence en vient à se présenter aux investisseurs comme si elle était San Francisco. La ville du célèbre peintre Paul Cézanne a su s'adapter pour être aujourd'hui labellisée French Tech et offrir un écosystème attractif aux porteurs de projets et aux créateurs d'entreprises. Ville intelligente, connectée, résolument tournée vers l'innovation numérique et l'international, Aix-en-Provence est une ville moderne, cosmopolite, culturelle, dynamique, ouverte sur le monde, vante une brochure de la direction Attractivité et coopération internationale de la mairie. Fracture territoriale. Bien que concurrentes, les métropoles savent s'allier pour défendre leurs intérêts et utiliser la diplomatie des villes à des fins de lobbying. Le réseau Eurocities se donne pour mission d'influencer les politiques européennes afin de veiller à ce que l'avis des grandes villes soit pris en compte dans l'élaboration des politiques. La CGLU se vante d'exercer un lobbying politique auprès de Bruxelles, ainsi que de la Banque mondiale et de l'ONU, pour obtenir l'établissement d'un fonds européen pour la diplomatie des villes. L'ICLE concentre ses pressions sur le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat GIEC afin de l'inciter à souligner davantage la place centrale que doivent tenir les villes dans la lutte contre le réchauffement climatique. Quant au C40, il a créé en 2017 l'association Urban 20 qui cherche à peser sur les ministres participant aux délibérations des sommets du G20. Il se forme alors un cercle vicieux. En concentrant les richesses et les activités à forte valeur ajoutée dans les métropoles, la mondialisation a accru leur poids économique, politique et culturel. Confrontées aux mêmes problèmes, abritant la même population aisée et diplômée, elles ont commencé à se rassembler. On trouve à New York ou à Pékin les mêmes gratte-ciel, les mêmes centres commerciaux aseptisés, les mêmes clusters créatifs, puis à se rassembler, unis pour défendre leurs intérêts communs. Ils influent désormais sur les centres de décision, de la Banque mondiale à la Commission européenne, et orientent ainsi les politiques publiques à leur avantage, accentuant un modèle de développement spatialement inégalitaire qui délaisse les campagnes et les petites communes. S'il n'est pas nouveau, ce fossé entre les territoires a rarement été aussi béant. Quand les uns végétalisent les immeubles et électrifient les bus, les autres redoutent les logements abandonnés faute d'occupants et se débattent avec des bus aux horaires peu adaptés qui ne passent pas en soirée, ni les jours fériés, ni les week-ends. Cette fracture que connaissent la plupart des pays occidentaux s'est considérablement accrue depuis la crise de 2008. En France, le produit intérieur brut PIB par habitant dans l'agglomération parisienne a augmenté de 3% entre 2008 et 2016. Dans le reste du pays, il a stagné. Aux États-Unis, durant la même période, le taux d'emploi dans les aires métropolitaines a progressé de 4,8 points, quand, dans les aires non métropolitaines, il a chuté de 2,4 points. L'écart est encore plus frappant au Royaume-Uni, où Londres a capté 35% des créations d'emplois du pays depuis 2008. Pour Paris, New York, Londres, ou encore Amsterdam et Toronto, la crise n'a été qu'un épisode passager. 10 ans plus tard, l'emploi s'y porte bien, l'immobilier atteint des sommets, les investissements affluent, les classes supérieures n'ont jamais été aussi concentrées, même si des poches de pauvreté subsistent, notamment dans les ensembles de logements sociaux. De leur côté, les territoires moins denses, plus populaires, continuent de subir les effets de la récession. Ils sont pris dans un engrenage où la disparition des emplois industriels et peu qualifiés a provoqué un déclin démographique qui a lui-même entraîné une baisse des prix de l'immobilier et une crise des finances locales. Moins d'habitants, moins d'emplois, des logements moins chers, c'est aussi moins de recettes pour les collectivités locales, avec des effets sur l'offre de services publics, l'entretien des infrastructures. Ces territoires perdent encore de leur attrait, poussant toujours davantage la population à partir, et ainsi de suite. C'est dans ces zones que l'extrême droite, et plus largement les partis dits populistes, ceux qui contestent la mondialisation et la libre circulation des biens et des personnes, sont le mieux implantés. À l'élection présidentielle américaine de 2016, M. Donald Trump a triomphé dans les comtés où la croissance des revenus était la plus faible, où la population déclinait et où le taux de mortalité augmentait. En France et au Royaume-Uni, le Rassemblement national et partisans du Brexit obtiennent leur meilleur score dans les régions les plus affectées par la baisse des prix de l'immobilier. A l'inverse, les partis qui se disent progressistes, adeptes du libre-échange, du capitalisme vert, de l'ouverture et de l'innovation, récoltent l'essentiel de leur suffrage dans les métropoles. En 2016, aux États-Unis, la candidate démocrate Hillary Clinton a remporté 88 des 100 comtés les plus densément peuplés, ceux qui abritent les grandes villes, ne laissant parfois que des miettes à son adversaire, comme à Washington, où seuls 4% des électeurs se sont prononcés pour M. Trump. On retrouve cette situation en Hongrie, où Budapest est dirigée depuis octobre 2019 par un écologiste, virulent pourfendeur du Premier ministre Viktor Orban. En République tchèque, Prague a choisi pour maire en novembre 2018 un membre du parti pirate qui veut planter 1 million d'arbres en 8 ans et qui défend les réfugiés, contrairement au Premier ministre Andrei Babis, qui dénonce l'immigration de peuplement en Europe. Même Istanbul, qui, il y a 25 ans, servit de rampe de lancement au président islamo-conservateur Recep Tayyip Erdogan, a basculé l'année dernière dans les mains d'un parti d'opposition laïque et social-démocrate. La coalition des citadins sécularisés, des milieux d'affaires, de la jeunesse, des femmes et des minorités s'est activement mobilisée. Des Turcs, des Kurdes, des Ouzbeks partagent les trottoirs avec des Sénégalais, des Qataris, des Syriens. Des Stambouliotes de 7e génération vivent dans la ville avec des migrants, des expatriés et des réfugiés. Partageant un même espace, sinon une même vie, cette myriade de citoyens est connectée par une urbanité commune, s'émerveilla alors le Washington Post, propriété de M. Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Défense des valeurs. Cette vision béate s'est largement propagée depuis une dizaine d'années. Les valeurs de New York, comme les valeurs des autres grandes villes du monde, sont des valeurs d'optimisme, de diversité et de ténacité auxquelles nous devrions tous aspirer, estime The Guardian, octobre 2016. Particulièrement enthousiaste, le Forum économique mondial de Davos voit même dans les métropoles un antidote au populisme. La plupart des villes du monde réimaginent la politique, l'économie, l'action écologique en partant des habitants. Elles construisent une vision de l'avenir positive, inclusive, plurielle, tandis que les dirigeants nationalistes sèment la peur, ferment les frontières et construisent des murs. Constatant que les populations urbaines et rurales sont de plus en plus déchirées quand il s'agit de valeurs et de priorités, le symposium de millionnaires invite les métropoles à s'organiser et à renforcer leur diplomatie urbaine. Ivo Dalder, l'ancien conseiller de M. Obama, prône même la création de mini-ambassades qu'elles implanteraient là où elles ont des intérêts importants afin de dépasser les éventuels blocages des gouvernements. Sao Paulo, Londres et Toronto se sont déjà essayés à de telles expériences, mais elles ont suscité le courroux d'habitants qui y voyaient un gâchis d'argent public. Un partenariat public-privé pourrait être une solution, suggère le stratège. Certaines villes ont commencé à organiser leur croisade contre le populisme. En Europe de l'Est, les maires de Prague, Bratislava, Varsovie et Budapest ont signé en décembre dernier un pacte des villes libres. Ils défient leur gouvernement, qu'ils accusent de répandre le genre de nationalisme xénophobe qui a plongé l'Europe dans la guerre deux fois au cours du siècle dernier. Nous ne nous cramponnons pas à une conception dépassée des notions de souveraineté et d'identité, mais nous croyons en une société ouverte, basée sur nos précieuses valeurs communes de liberté, de dignité humaine, de démocratie, de durabilité, d'égalité, d'état de droit, de justice sociale, de tolérance et de diversité culturelle, professent les quatre élus avant d'encourager les villes à collaborer en mettant en commun leurs ressources, en échangeant leurs idées. Aux États-Unis aussi, les métropoles s'affichent comme les premières opposantes au président. En janvier 2017, sitôt M. Trump installé à la Maison-Blanche, les maires de San Francisco, Los Angeles, Seattle, Boston, New York, Washington, Détroit ou encore Chicago annonçaient qu'ils n'appliqueraient pas ces décrets visant à durcir la lutte contre l'immigration clandestine. Le maire de Boston dénonçait une législation destructrice et anti-américaine, une attaque contre les habitants de Boston, la force de Boston et les valeurs de Boston. Notre ville et nos valeurs ne changeront pas avec l'élection. Nous ne sommes pas les agents du gouvernement fédéral, assénait son homologue de Washington. Quelques mois plus tard, la fronde se portait sur la question de l'environnement. Plusieurs métropoles déclarant leur intention de respecter l'accord de Paris sur le climat, malgré le retrait décidé par M. Trump. Au Royaume-Uni, c'est le Brexit qui a mis le feu aux poudres. Au lendemain du référendum de juin 2017, une pétition circule pour réclamer l'indépendance de Londres. En quelques semaines, elle recueille 180 000 signatures. Sans aller jusqu'à prôner la sécession de la capitale, le maire, M. Sadiq Khan, souhaite lui aussi se dissocier du destin national. Quatre jours après les résultats, il publie avec Mme Hidalgo une lettre ouverte dans le Financial Times et le Parisien. Nos villes sont des espaces où chacun, d'où qu'il vienne, peut se sentir chez lui. En tant que maire de Paris et de Londres, nous sommes déterminés à travailler plus étroitement afin de construire des alliances encore plus fortes entre les villes d'Europe et du monde. Ensemble, nous pourrons être un contrepoids puissant face à la léthargie des États-nations et à l'influence des lobbies. Ensemble, nous façonnerons le siècle à venir. Pour rassurer touristes et investisseurs, M. Khan lance également une campagne de communication autour du mot-clic « / London is open »« Londres est ouverte ». Appuyé par la Chambre de commerce et d'industrie, par la City of London Corporation, par de nombreux think tanks et multinationales, il réclame la création d'un visa de travail uniquement valable à Londres, ainsi que l'extraterritorialité de la capitale dans ses relations avec le marché commun. Aucune de ces demandes n'a abouti, mais cette opposition farouche a permis à M. Khan d'acquérir une stature internationale inespérée pour un maire. Il partage désormais les estrades avec des ministres et des chefs d'État étrangers, le Canadien Justin Trudeau, l'Argentin Mauricio Macri, le Français Emmanuel Macron. La presse de gauche salue avec enthousiasme ces résistances. Dans son dossier « Les villes prennent le pouvoir », premier semestre 2020, la revue française Regards voit par exemple dans la mutinerie des métropoles américaines une preuve qu'il existe des marges de manœuvre pour résister à la politique répressive du président Trump. Or, en renforçant l'idée qu'elles ne se sentent plus concernées par le sort du reste du pays, les métropoles contribuent à élargir les fractures territoriales. Elles participent également à la transformation des clivages socio-géographiques en conflits de valeurs, un mot qui revient sans cesse. La ligne de partage ne passe plus entre des territoires qui profitent de la mondialisation, du libre-échange, de la circulation des cerveaux, de la main-d'œuvre immigrée bon marché et d'autres qui en pâtissent, mais entre des espaces ouverts, tournés vers l'avenir, et d'autres fermés, accrochés à leurs traditions. Analyste politique à succès et ancien conseiller du président William Clinton, Benjamin Barber a publié un livre intitulé « Si les maires gouvernaient le monde ». Très apprécié des décideurs, l'ouvrage lui a valu une multitude d'entretiens, d'invitations, de propositions, de conférences. Il y dresse une typologie qui illustre de manière caricaturale la manière dont les élites urbaines perçoivent leurs concitoyens. Aux métropoles et aux grandes villes, Barber accole les termes « ouverts », « créatifs », « cosmopolites », « mobiles », « changeants », « futurs », « innovations », « séculaires », « progressistes », « liberté », « sophistication », « commerce ». Pour qualifier les campagnes et l'Amérique profonde, il utilise les mots « fermé », « conventionnel », « paroissial », « immobile », « stable », « passé », « répétition », « religieux », « conservateur », « tradition », « simplicité », « autarcie ». S'aventurant au-delà des clichés, le professeur de sciences politiques Lawrence R. Jacobs a cherché à comprendre cette fracture en enquêtant dans le Minnesota, où il enseigne, et où M. Trump a remporté près de 20 comtés qui avaient choisi M. Obama en 2008 et 2012. Parmi les facteurs de division, il met tout d'abord en lumière le grand écart salarial entre Minneapolis et le reste du Minnesota. En 2017, la métropole a décidé de porter progressivement son salaire minimum à 15 dollars l'heure, une mesure couramment adoptée dans les grandes villes pour permettre aux travailleurs peu qualifiés de se loger tant bien que mal dans un contexte de flambée immobilière. Ailleurs, dans le Minnesota, le salaire minimum plafonne à 10 dollars dans les grandes entreprises et à 8-15 dollars dans les petites, quand les habitants parviennent à trouver un travail. Ceux que le chercheur a rencontrés vivent un tel écart comme une exclusion. Partout, à Minneapolis, il y a des grues et des panneaux « on embauche pour des emplois qui commencent à 15 dollars l'heure », comme autant d'habitants d'une petite commune qui aurait bien besoin de travaux. Jacobs souligne également combien les discours, la rhétorique, les concepts utilisés par le camp progressiste de Minneapolis, calibrés pour plaire aux classes supérieures urbaines, paraissent décalés aux habitants de l'État. Il cite notamment la notion de « privilège blanc », en vogue dans les facultés de sciences sociales et utilisée à tort et à travers par les élus de Minneapolis et par les militants démocrates locaux, après une fusillade dans un commissariat à propos d'habitants en lutte pour la protection d'espaces verts. Certains comtés, parmi les plus pauvres du Minnesota, comptent jusqu'à 95% de blancs. Condamnés au bas salaire et à la précarité, leurs habitants ne se sentent aucunement privilégiés, surtout quand ils regardent Minneapolis. Plutôt que de privilège blanc, ils préfèrent parler d'un privilège métropolitain, associé indifféremment aux minorités ethniques et aux cols blancs, qui restent les pieds sur leur bureau pour gagner leur vie. Les grandes villes et leurs décideurs échangent toujours davantage avec leurs homologues du monde entier, mais sont coupés d'une partie de leur pays. Leur discours uniformément innovant, ouvert, durable, créatif et intelligent masque mal la captation sans précédent des richesses qu'ils opèrent. Sont-ils ensuite les mieux qualifiés pour proposer un antidote au populisme ? We'll be right back.
Fire.